Bonjour tout le monde. Vous allez bien ce matin? La neige ne vous décourage pas trop, j'espère. Il fallait bien s'y attendre à un moment donné, hein, avec le mois de novembre qu'on a eu. Ce matin, écoutez, je suis content d'être avec vous, de poursuivre notre aventure dans le livre de l'Exode. Alors, on a entamé depuis quelques semaines déjà une espèce d'aventure dans le livre, où est-ce qu'on essaie de voir dans le livre de l'Exode, comment Dieu se révèle à son peuple. Et ce matin, on aimerait simplement avancer un peu plus dans quelle est la façon dont Dieu s'est manifesté à son peuple, mais de quelle manière également ça signifie quelque chose pour nous aujourd'hui. Sa présence, il nous révèle la majesté, la bonté, la puissance de sa présence à travers nos vies. Alors ce matin, on va simplement avancer un peu plus profondément dans ce livre-là. On s'est laissé la semaine dernière avec cette fameuse épisode où Israël a été délivré d'Égypte, a été délivré de sa condition d'esclave, sa condition de misère. Dieu est intervenu de manière magistrale envers ce peuple-là. En faisant quoi? En séparant la mer Rouge en deux. Le peuple d'Israël était sorti d'Égypte. Le peuple d'Israël était devant une mer. Et là, il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient. Et ce que Dieu fait, c'est qu'il, par le moyen évidemment de son serviteur Moïse, Dieu sépare cette étendue d'eau entre les, d'une certaine manière, entre deux murs, il le sépare en deux, il fait passer son peuple pour ensuite le libérer en inondant et en faisant périr l'armée égyptienne qui était à sa poursuite. Et vous vous souvenez de ce que fait le peuple à partir de ce moment-là? Que fait le peuple lorsqu'il sort libéré d'Égypte, qu'il a passé à travers la mer Rouge? Que fait-il? Il loue, il chante la gloire de Dieu, il lui manifeste sa gratitude, son adoration. « Seigneur, je crois en toi, tu es ma force, c'est toi qui m'as libéré de ma condition d'esclave. Je veux te donner, t'es tout pour moi. » Et là, le peuple chante avec joie, avec effervescence. Et évidemment, la question qu'on peut se poser ici est la suivante. C'est bien beau de louer Dieu et de lui faire confiance quand tout roule comme sur des roulettes, mais lorsque les temps plus difficiles se pointent à l'horizon, est-ce que notre cœur est toujours prêt à chanter le même type de chansonnette? Parce que c'est ça la foi. Le peuple d'Israël a vu Dieu agir pour lui dans un moment de grande gloire. Tu as séparé la mer Rouge en deux, tu nous y as fait passer, tu nous as libérés. Et là, tu nous conduis vers un endroit où il y a peu de ressources. Et le Seigneur veut apprendre à son peuple à marcher, non seulement par la vue, mais il veut l'apprendre à marcher par la foi. Et ce matin, le texte dans lequel on s'en va, c'est exactement le contexte où est-ce que ça se situe. C'est-à-dire que Dieu va amener son peuple à non pas marcher parce qu'il va voir, mais à l'amener au-delà de ça, à marcher selon l'école que lui veut l'amener, à marcher par la foi. Alors, sans plus tarder, je vais laisser mon frère Stéphane nous lire deux passages ce matin à partir de Exode chapitre 15, verset 22. Il va nous lire deux passages. Alors, sans plus tarder, je lui laisse la parole et on revient ensemble par la suite.
Alors, la lecture de ce matin se trouve dans Exode au chapitre 15. Je vais lire du verset 22 à Exode 16, verset 4. Ensuite, je vais reprendre au chapitre 17, verset 1 jusqu'au chapitre 17, verset 7. Donc, Exode, chapitre 15, verset 22, et je vais lire ça dans la version Louis II, second 21. Moïse fit partir Israël de la mer des roseaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous? » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui guérit. » Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande et quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Exode, chapitre 17, au verset 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors, le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire !» Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si ce n'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?» Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé les fleuves, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non? »
Merci Stéphane. Merci Stéphane pour la lecture de ce texte où on voit, c'est long texte quand même, plusieurs versets, où est-ce qu'on voit qu'après l'exaltant épisode de la mer Rouge où Dieu est intervenu de manière miraculeuse envers son peuple, on voit que Dieu ici décide de diriger son peuple où? Vers le désert. Là où il n'y a pas assez de ressources pour nourrir tout le monde, on s'entend-tu là-dessus? Dans le désert, il n'y a pas assez de nourriture, il n'y a pas assez d'eau pour nourrir plus d'un million de personnes. En fait, si on voulait ici résumer la situation, et c'est ce que le texte souligne de manière assez claire, Dieu dirige son peuple dans le désert par la main de Moïse. Pourquoi? Pour l'éprouver, pour lui faire passer une sorte de test. Est-ce que vous allez chanter le même type de chanson qu'après être sorti de la mer Rouge, lorsque votre cœur va être éprouvé, lorsque ça n'ira pas comme sur des roulettes, lorsque votre vie va en dépendre, vos besoins nécessaires? Est-ce que toujours vous allez chanter ma gloire, ma majesté, ma bonté, ma puissance? Qu'est-ce que vous allez faire quand votre cœur va être mis à l'épreuve? Est-ce que vous allez toujours croire en moi? Est-ce que vous allez toujours chanter ma gloire et ma louange? En fait, si on voulait ici résumer la situation du chapitre 15 jusqu'au début du chapitre 7, on pourrait dire ceci, et ça va être un peu le résumé de l'exposé de ce matin, c'est que l'épreuve de nos vies est un outil entre les mains de Dieu afin d'examiner notre cœur, se faire connaître à nous et intervenir là où nous en avons profondément besoin. Je répète, l'épreuve de nos vies est un outil entre les mains de Dieu afin d'examiner notre cœur, se faire connaître à nous et intervenir là où nous en avons profondément besoin. Vous savez, pour la plupart des gens, l'épreuve, c'est quelque chose dont on peut aisément se passer dans la vie. Vous êtes d'accord avec moi là-dessus? Je connais personne qui se lève le matin et qui se dit « Comment je pourrais bien ce matin me mettre intentionnellement des bâtons dans les roues pour me rendre la vie plus compliquée? Comment je pourrais me rendre la vie plus difficile ce matin? » Parce que l'épreuve, d'une certaine manière, on voit ici que « Bon, ben ok, oui, ça me fait grandir, tout ça, mais D'une certaine manière, il n'y a personne qui, au courant de sa vie, se met intentionnellement des bâtons dans les roues. Non, plutôt, on veut les enlever plutôt que nous en mettre. Pourtant, ce qu'on voit ici dans le texte, c'est que l'épreuve est quelque chose qui est permis par Dieu. On pourrait même dire, et on le voit au niveau de la conférence cela notamment, l'épreuve, on pourrait même dire que Dieu, bien souvent, en est l'auteur. Il est responsable de ce qu'il permet, parce qu'il le permet. Et on pourrait dire ici que l'épreuve de nos vies, c'est non seulement quelque chose que je dois composer avec, mais c'est même quelque chose de nécessaire. C'est quelque chose dont j'ai besoin. C'est un outil que Dieu utilise de différentes façons dans ma vie pour me rendre semblable à lui et me faire mieux connaître qui est cet être absolument magnifique et souverain qui a fait passer son peuple à travers la mer Rouge. Et la première chose que souligne le texte, au sujet de l'épreuve. À quoi ça sert l'épreuve, Miguel? Il me semble que Dieu me met des bâtons dans les roues. C'est-tu qui est masochiste? Il veut-tu vraiment me faire du mal? Non! La première chose que Dieu nous dit, c'est que l'épreuve révèle l'état de notre cœur. La première chose pour laquelle Dieu suscite et permet l'épreuve dans nos vies, c'est qu'il veut savoir où on en est avec lui. Est-ce que je marche par la vue ou est-ce que je marche par la foi? Est-ce que je suis prêt à le chanter autant dans la disette que dans l'abondance? De la même manière qu'un professeur s'assure qu'un étudiant a bien compris ce qui lui a été enseigné, comment est-ce qu'il s'y prend, il lui fait passer un quoi? Un test. Il lui fait passer un examen, une épreuve. Eh bien, Dieu, d'une certaine manière, ici met son peuple à l'épreuve dans le désert afin de voir si sa confiance en lui va demeurer la même dans la disette comme dans l'abondance. On voit ça notamment au chapitre 15. Alors que le peuple souffre de soif et qui arrive à un point d'eau amère, ce qui engendre évidemment les plaintes et les murmures. Ah, déjà là en passant, ce n'est plus vraiment des actes de louange. Regardez ce que nous dit le verset 25. Moïse cria à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qu'il jeta dans l'eau et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Qu'est-ce qu'il fait Dieu ici? Deux choses. Premièrement, il indique à Moïse comment rendre l'eau amère, la rendre potable. Donc, il prend soin de son peuple à l'abreuvant, malgré le fait qu'il murmure. Est-ce que le peuple méritait cet acte de grâce de Dieu? Bien sûr que non. Même dans l'Exode, on voit l'Évangile. Dieu s'occupe et prend soin de nous, même si on ne le mérite pas. Deuxième chose, il lui donne également quoi? Des lois et des règles. On ne sait pas exactement quel genre de lois et de règles Dieu a donné ici au peuple, mais on voit qu'il lui en a quand même donné. Pourquoi est-ce que Dieu a nourri, a abreuvé son peuple et lui a donné des règles? On voit à la fin du texte, dans le but de le mettre à l'épreuve. Dieu veut voir si les gens vont faire à leur tête ou s'ils vont suivre les indications qu'il vient de lui donner. La même chose se répète au chapitre 16, au verset 4. On voit que le peuple commence à souffrir de faim. Dans le désert, il n'y a pas autant de viande qu'en Égypte. Pourquoi, Moïse, tu nous as fait servir de ce pays, sortir de ce pays d'abondance, alors qu'ici, on manque de nourriture? Et qu'est-ce que dit Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Regardez le verset 4, chapitre 16, verset 4. Dieu dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir. » Wow! « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. » Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Donnez-moi un instant, je vais boire un peu d'eau. Sur quoi est-ce que le texte met l'accent ici? Bien sûr, Dieu nourrit son peuple. Dieu promet d'intervenir de manière miraculeuse pour lui. Mais ici, le texte met l'accent que Dieu veut savoir si vous allez obéir à ma loi. Lorsque je vais vous donner la fameuse manne, que je vais la faire pleuvoir du ciel, est-ce que vous allez en ramasser plus que ce que je vous demande? La veille du sabbat, est-ce que vous allez en ramasser le double portion parce qu'il n'y en aura pas. Est-ce que vous allez suivre les consignes que je vais vous donner par rapport au miracle que je vais faire pour vous de vous donner des cailles et de la manne? Est-ce que vous allez suivre ce que je vous indique? Eh bien, la suite de l'histoire nous dit que non. Des gens n'ont ramassé plus qu'il fallait pour faire des provisions. Et qu'est-ce qui est arrivé avec la manne? Elle est devenue infecte. Et qu'est-ce qui est arrivé la veille du sabbat? Qu'est-ce qui est arrivé la veille du sabbat? Lorsque Dieu a donné, on demande aux gens de ramasser le double portion, bien non seulement la nourriture ne devenait pas infecte le lendemain, mais en plus, il n'y en avait pas le lendemain. Les gens sont sortis et disent, hey, c'est quoi le problème, là? Tu nous as fait pleuvoir pendant 6 jours, puis là, tout d'un coup, il n'y en a plus, là. C'est quoi, tu ne prends pas soin de nous? Ben oui, mais écoute, bonhomme. Écoute, je t'ai dit quelque chose, puis tu n'obéis pas. Je veux te mettre à l'épreuve, je veux tester où est ta foi. Est-ce que ta foi est dans ce que je te donne ou elle est sincèrement dans l'être suprême que je suis et qui œuvre de bonté pour toi? On voit ici que ce qui a permis à Dieu de tester et de mettre à l'épreuve le cœur des gens, c'est le fait de le mettre à l'épreuve, de le tester. Et il y en a la même chose pour chacun d'entre nous. À quel moment, vous, personnellement, vous vous apercevez que vous avez besoin de patience, de douceur, de discernement dans vos relations avec les autres? À quel moment est-ce que vous apercevez que finalement, au bout du compte, vous êtes plus colérique que ce que vous pensiez? À quel moment est-ce qu'on s'aperçoit de ça dans nos vies de tous les jours, là? C'est quand notre cœur est mis à l'épreuve, quand notre cœur est exposé à des situations qui ne font pas notre affaire, des situations qui peuvent nous bouleverser, qui peuvent nous chavirer, c'est là que Dieu voit de quoi mon cœur est fait envers lui. Il y a plusieurs années de cela, j'étais assis à la table un samedi matin, avec mon café à côté de moi, en train de prendre mes courriels tranquillement, et un de mes enfants s'avance à côté de moi et malencontreusement accroche la grande tasse de café qui se renverse complètement sur mon ordinateur, qui évidemment est ouvert. Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Bien, premièrement, l'ordinateur, c'est capote. Et qu'est-ce que, d'après vous, s'est passé avec mon cœur? Littéralement pris de panique. Ma petite fille a été... Pas un de mes enfants, je ne voulais pas vous le dire, mais finalement, ça sortait toute seule. Excuse-moi, Florence, je l'avais dit que je ne le dirais pas, mais je suis désolé, papa. Justement, son cœur vient d'être révélé qu'il oublie parfois les choses. Alors... Un de mes enfants a été le témoin direct de toute la colère et l'animosité dont son papa était capable. Pensez-vous sérieusement que juste avant l'épisode, j'aurais pu dire « Oui, Miguel, vraiment, tu as un gros problème avec la colère et l'animosité. » Non, pour moi, je pensais vraiment que mon cœur était en paix, que s'il arrive une situation, oui, je compte sur Dieu vraiment pour établir une bonne relation et de pardon envers et d'acceptation de la situation d'une certaine manière, puis je fais confiance à Dieu. Non, mon cœur a été troublé à ce moment-là. Mon cœur a été pris de panique. Je venais de perdre tout sur mon ordinateur, ma mémoire, tout ce que j'avais. Mon cœur n'était pas aussi doux que ce que je le pensais. Et qu'est-ce qui m'a permis de constater ça? C'est l'épreuve. Le fait que mon cœur, la paix que je pensais avoir dans mon cœur, n'était pas aussi grande que ce que je pensais. C'est l'épreuve qui a permis de révéler la condition de piètre misère dans laquelle mon cœur était. Dieu s'est servi de cette épreuve pour me révéler dans quel état était mon cœur. Lamentable. Je n'ai pas passé le test de l'épreuve qu'il a mis devant moi. Et c'est là que Dieu veut nous amener, chacun d'entre nous, pour le connaître vraiment. D'expérimenter le fait que, en dedans de moi, je ne suis jamais aussi sur la coche que ce que je voudrais bien avec les autres, mais surtout avec Dieu. Et Dieu a besoin de mettre l'épreuve dans ma vie pour tester et me faire voir qu'à quel point lamentable mon cœur est situé par rapport à lui. Même parfois lorsque je suis né de nouveau, ce que je fais est parfois dans un piètre état. Pourquoi Dieu permet ça? Premièrement, pour m'en faire prendre conscience. Me faire prendre conscience que, écoute, Miguel, tu as un problème. Tu te fies trop aux circonstances de la vie pour mettre la paix autour de toi. Et dès que ces circonstances-là changent, tu ne me loues plus. Tu craches ton fiel sur quelqu'un qui l'a malencontreusement renversé une tasse de café sur ce que tu es en train de faire. Pourquoi est-ce que Dieu permet l'épreuve? Premièrement, me révéler l'état de mon cœur. Mais deuxièmement, Dieu me révèle également, pas me révèle, mais suscite l'épreuve afin de mieux se faire connaître à nous. L'épreuve permet à Dieu de se révéler d'une manière plus intime et profonde à chacun de nous. C'est ce qu'a expérimenté le peuple d'Israël au désert. Dieu s'est révélé à lui comme il ne pouvait pas le faire autrement. Ça prenait l'épreuve pour que Dieu se manifeste à son peuple de la manière dont il va le faire. Regardez par exemple au chapitre 15, au verset 26. Dieu dit à son peuple, après lui avoir donné des règles, après l'avoir abreuvé, après l'avoir mis à l'épreuve, il lui dit, « Si tu écoutes attentivement l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis, Dieu ici dit à son peuple qui il est, je suis celui qui te guérit. Il se révèle à son peuple d'une manière plus intime, plus profonde. Même chose au chapitre 16, lorsque le peuple a faim et qui se met à murmurer parce qu'il n'y a pas de viande. Regardez ce que dit Dieu au verset 6 et 7 du chapitre 16. Je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Excusez-moi, ça c'était le verset 4. Verset 5. Le sixième jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites, « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez quoi? Vous verrez la gloire de l'Éternel parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Qui sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous? » Dieu a mis son peuple à l'épreuve en lui donnant, d'une certaine manière, de la disette. Il a fait pleuvoir sur lui de la manne. Non seulement pour qu'il obéisse, mais pour qu'il voie sa gloire. La manne ici est comparée à la gloire de Dieu que le peuple voit sur la terre, sur le sol et qu'il faut qu'il ramasse. Dieu se révèle à son peuple. Il nous dit même au verset 12, « Ainsi vous reconnaîtrez qui je suis l'Éternel, votre Dieu. » Il se manifeste à lui, il se révèle à lui, il lui dit, « Je suis le Dieu qui guérit, je suis celui qui vous fait voir sa gloire. » En vous mettant à l'épreuve, Dieu manifeste gracieusement sa présence envers un peuple rebelle. Un peuple qui ne mérite pas de voir la gloire de Dieu, mais Dieu lui montre pareil. Pourquoi? Pour le transformer, pour changer qu'il ait changé la condition de son cœur et lui faire voir que dans la disette ou l'abondance, je reste le même. Et c'est comme ça que je veux me révéler à vous. Arrêtez de vous plaindre et vous murmurer. Ça ne changera pas qui je suis. Je suis un Dieu qui guérit. Je suis un Dieu qui vous fait voir sa gloire. Dans l'épreuve, Dieu se fait connaître à nous. Il nous fait expérimenter ce qu'on ne peut pas apprendre dans une classe ou dans un livre. Tout à l'heure, je vous racontais le fameux épisode de la tasse de café avec ma petite fille. Écoutez, mon ordinateur s'est vraiment interrompu sur le champ, capote, tout était perdu. Et je me suis rendu compte à ce moment-là du bouleversement que j'avais créé dans le cœur de ma petite fille. Jamais je l'ai vu comme ça. Aussi terrorisé par la panique de son papa. Puis j'y ai simplement dit, évidemment après plusieurs minutes d'introspection et tout ça, et non vraiment des plusieurs minutes de colère, dire à ma petite fille, écoute Florence, dit, je veux vraiment te demander pardon. Papa a commis une faute énorme envers toi, puis je veux me repentir de ce que j'ai fait envers toi. Papa n'avait pas raison de se mettre en colère contre toi. Je t'ai juste vu la méchanceté du cœur de papa. Est-ce que ça me rendait mon ordinateur? Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'ai perdu mon outil de travail, tout ce que j'avais en mémoire. Puis j'ai réussi, évidemment, après essayer de faire plusieurs tours de passe-passe pour récupérer le tout. J'ai décidé simplement de tout mettre cela d'aller prendre une douche juste pour m'apaiser les esprits. Vous savez ce que j'ai fait sous l'eau? Je me suis mis à prier. J'ai dit, Seigneur, je sais très bien que je ne mérite pas de retrouver cet ordinateur-là. Je suis indigne que tu m'accordes cette grâce et ma réaction envers Florence le prouve très, 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 très bien. Mais je sais, par exemple, aussi, et tu me dis dans tes Écritures que tu te révèles à nous, non pas parce qu'on est sur la coche avec toi, mais que tu te révèles à nous, tu te manifestes à ceux qui admettent leur impuissance, leur vulnérabilité, leur faute. C'est à eux que tu te révèles. Par l'épreuve que tu viens de mettre dans ma vie, tu viens de constater mon cœur et tu viens de voir que mon cœur a besoin que tu te révèles à lui pour le transformer. Maintenant, même si je suis indigne, montre-moi ta puissance. Montre-moi ta bonté en intervenant pour cette situation-là, que je puisse apprendre à te goûter et connaître vraiment pour qui tu es. Je suis sorti de ma douche. Je suis habillé, je vais vers l'ordinateur, je pèse sur la petite touche magique et tout revient à la normale. Il s'est allumé, rien n'a été perdu. Dieu a examiné mon cœur troublé. Il a vu à quel point j'étais un être comme le peuple d'Israël et comme vous l'êtes tous. Je ne sais pas si je vous apprends quelque chose, mais vous êtes dans la même situation que moi ce matin. La même situation qu'envers le peuple. Nous sommes les Québécois particulièrement, des gens qui aimons se plaindre. On aime ça, se plaindre et murmurer contre ce qui ne va pas. Dieu a examiné mon cœur et il a manifesté sa présence. C'est là, dans le feu de l'action, que j'ai appris à connaître Dieu, sa grâce, à l'expérimenter sur le terrain, sur le plancher des vaches, vraiment d'une manière plus profonde et extraordinaire. Jamais mon cœur avait goûté le fait que Dieu se préoccupait de moi à ce point-là, même si je ne méritais rien. Voilà comment Dieu utilise l'épreuve. Il veut manifester sa présence et nous montrer à quel point. Et c'est là mon troisième point ce matin. L'épreuve est non seulement pour lui un moyen de révéler notre cœur, de se faire connaître à nous pour qui il est, mais en plus, l'épreuve est un outil divin pour intervenir là où nous en avons profondément besoin. Entre les chapitres 15 et 17, on voit clairement que Dieu intervient de manière spécifique dans l'épreuve d'Israël. Il est à la fois l'auteur de l'épreuve, mais également la réponse exacte de l'épreuve. À deux reprises, Dieu met le peuple dans un contexte de soif. Et qu'est-ce qu'il fait? Les deux fois, il l'abreuve. Et lorsqu'il le met devant un contexte de faim, de disette, de nourriture, qu'est-ce qu'il fait? Il répond en lui envoyant à la fois de la viande et du pain tombé du ciel. Il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, « Ah, Miguel, il y a une manière naturelle de voir tout ça, la manne, et puis même les cailles, là, il y a une espèce de vent qui peut pousser les... » Tout ça n'a rien à voir avec Dieu. Ce n'est pas ce que disent les Écritures. Ici, on voit très bien que ce n'est pas juste un geste naturel qui a poussé les cailles vers le peuple, c'est que au moment où les cailles ont été poussées, le peuple souffrait de faim. Il avait faim, il avait... besoin d'être nourri, de voir la gloire de Dieu, et Dieu lui montre sa gloire, même s'il ne mérite pas, en lui faisant amener de la viande, mais également sa manne. Dieu intervient exactement là où nous en avons besoin. Dieu répond à son peuple, et la manière dont il s'y prend est tout à fait merveilleuse. Au chapitre 17, on voit que le peuple cherche querelle à Moïse parce que le peuple a encore soif. Il est là devant, il n'y a pas d'eau là où ils sont. Et pourtant, regardez ce qui arrive au verset 5 et 6. Le peuple menace pratiquement Moïse de le lapider, de le couvrir de pierres. Le verset 5 nous dit, « L'Éternel dit à Moïse, passe devant le peuple. Et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. On voit ici que Dieu intervient pour son peuple là où il en a besoin. Et comment est-ce qu'il intervient? Par sa présence. Il montre à son peuple que l'épreuve, ce n'est pas l'argument pour vous prouver que je suis absent. Vous ne pouvez pas utiliser l'épreuve pour dire que je ne suis pas là. Au contraire, l'épreuve sert au contraire. L'épreuve sert à vous prouver que je suis là, bel et bien avec vous, et que je suis présent au milieu de vous. Ici, dans le texte, on voit très bien que Dieu passe en avant de Moïse. Il n'est pas à côté de lui, il n'est pas en arrière, il est en avant de lui. Il manifeste sa présence à son peuple et il se manifeste en l'abreuvant. Il lui donne ce dont il a exactement besoin dans le contexte précis où il est. Évidemment, il serait facile ici, en tant que peuple québécois, en tant que Longueuilois, de sentir très loin de tout ça. Ici, on ne souffre pas de soif. On ne souffre pas de faim. Il y a des gens, bien sûr, qui sont dans la disette, qui en ont, mangent peut-être pas à leur appétit, mais on ne pourrait pas dire ici qu'au Québec, c'est difficile de trouver quelque chose à boire ou à manger. C'est quand même relativement aisé de se nourrir ou de s'abreuver. Mais pourtant, ce que Dieu a à offrir à nos vies, c'est tellement plus que de la manne, de l'eau potable ou des cailles. Ce que Dieu désire nous offrir au bout du compte, à chacun de nous, pour le désert de nos vies, c'est la personne somptueuse de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 4, vous pouvez donner avec moi ceux qui ont leur Bible. Voici ce que Jésus dit à propos de lui-même. « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillit jusque dans la vie éternelle. » L'eau dont Jésus nous abreuve n'est pas celle dont le peuple d'Israël a été abreuvé. Eux, ils ont eu encore soif, même si Dieu a répondu de manière miraculeuse à leur vie. Dieu nous dit ici que, en Jésus-Christ, tu peux être abreuvé dans ton âme, dans ta culpabilité, dans tes fautes, par une eau que je te donne comme je suis intervenu pour Israël. Il dit un peu la même chose au verset 6. Au chapitre 6, au verset 48, où Jésus dit, « Je suis le pain de vie, de la vie. Vos ancêtres ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Voici comment est le pain qui descend du ciel. Celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vivant descendu du ciel. » Jésus-Christ est pour tous les peuples de la terre une manne et une eau dont il peut nous abreuver infiniment plus qu'Israël l'a été. Ce que Israël a vécu au désert en tant que réponse de Dieu face à son épreuve, c'est juste une partie de ce que Jésus-Christ allait plus tard faire pour nous, nous abreuver à son esprit, en le mettant sur nous, nous nourrir de lui qui est le pain de vie. On a tous besoin, en tant qu'être humain, de quoi exactement? D'être réconcilié avec Dieu. Dieu, dans sa perfection infinie, est tellement au-delà de nous et nous sommes tellement indignes qu'il pose le regard sur nous. Lorsque Dieu voit notre état d'être pécheur, il ne peut que détourner la tête et nous séparer de lui. Mais voilà que le pain de vie, Jésus-Christ, et par son esprit qu'il met par la suite en nous, par la foi, il fait de nous de nouvelles créatures qui ne sont plus séparées de lui, mais réconciliées avec lui, le Père. Par qui? Par le pain de vie, la vraie manne qu'est Jésus-Christ. On vit tous dans un monde qui est troublé. Et notre confiance en Dieu est constamment mise à l'épreuve. Je suis sûr que vous auriez des millions d'exemples à me donner. Miguel, je suis mis à l'épreuve lorsque je rencontre mes, mes collègues au travail, lorsque je vois les autres, quand j'arrive en classe, mon professeur me met à l'épreuve, les autres me mettent à l'épreuve. C'est intéressant cette semaine, un de mes enfants, un de mes enfants, que je nommerai pas, là, je vais faire attention, me dit, il dit, « Papa, on me traite de bolé à l'école. » Puis, j'aime pas ça. Je veux pas être comme ça. Je veux pas être un bolé. Ça me trouble parce que ça nuit à mes relations avec les autres. Je suis comme mis à l'épreuve par un don que Dieu m'a donné. Dieu m'a donné de bonne mémoire, mais je suis mis à l'épreuve parce que ça nuit à mes relations de qualité. Et là, mon enfant est arrivé, il terminait avec un moins bon bulletin qu'il aurait eu dans le passé. Il dit, écoute, il va falloir vraiment se parler. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné un don particulier? Et que si tu ne t'occupes pas de ce don-là, tu te prives de tellement de bénédictions et tu laisses les autres définir qui tu es alors que Dieu, c'est amplement suffisant. Oui, ton épreuve, je peux la comprendre. Mais tu n'as pas à éviter l'épreuve. Tu n'as pas à la chercher, à la fuir. Dieu nous appelle à se construire par l'épreuve, à connaître qui il est. Ce Dieu-là t'a donné une mémoire et une intelligence qui fait que tu peux bien réussir à l'école. Tu ne règleras pas le problème avec tes amis en faisant semblant de ne pas être ce que Dieu a fait de toi par l'intelligence que tu as. Il dit, OK, pas, on va travailler là-dessus. On va essayer d'affronter l'épreuve de cette manière-là. Dieu est intervenu miraculeusement envers son peuple afin de mieux lui révéler son cœur, intervenir, se faire connaître à lui et intervenir là où il en avait profondément besoin, d'être transformé par lui. Et quand je préparais ça cette semaine et ce passage me revenait constamment en tête dans Philippiens chapitre 13, on nous dit « Je puis tout par celui qui me fortifie, Christ. » L'épreuve est quelque chose que Dieu veut utiliser pour me faire que je puisse mieux le connaître, mieux lui ressembler. Connaître le fait que même si je ne suis pas sur la coche envers lui, je suis capable de te bénir. Ça ne veut pas dire que ça va venir automatiquement, mais j'ai le pouvoir de te bénir même si tu ne le mérites pas. C'est ce qu'il a fait avec son peuple. Son peuple ne méritait pas à cause des plaintes et des murmures de marcher par lui, mais il avait à apprendre une leçon, l'école du désert. Apprendre que dans l'épreuve, Dieu mérite ma louange autant que dans l'abondance. Un peu comme disait Job, l'Éternel a pris, l'Éternel a donné, l'Éternel a pris, béni soit le nom de Dieu, qui peut m'assister de manière incroyable dans tout ce que je peux vivre en termes d'expérience de vie. Que ce soit la mort d'un enfant qui est troublante, un accident d'auto, une perte d'emploi, des finances qui sont complètement démolies pour différentes situations, Dieu a le pouvoir de me prendre soin de ses enfants, de se révéler à nous, de révéler notre cœur, où j'ai besoin d'être transformé pour marcher par la foi et non par la vue. Est-ce qu'on le croit vraiment que Dieu est le même dans l'abondance et la disette? Est-ce que nous sommes persuadés, assurés et convaincus que Dieu prend soin de nous et qu'il peut intervenir miraculeusement dans l'épreuve? Parce que s'il le peut, pourquoi est-ce que je me plains? Pourquoi est-ce que je me murmure? Dieu est là. Et il prend soin de moi, il a la bonté et la puissance, comme il me l'a démontré, de rétablir mon ordinateur, même si je ne le mérite pas. Est-ce que l'on prend Dieu au mot quand il nous dit ce qu'il est? Ou est-ce qu'on est attentif à ce que notre cœur nous dit, à ce que nos peurs nous indiquent, à ce que nos angoisses, notre stress tentent de nous communiquer? Sur quoi est-ce qu'on met l'accent? À qui faisons-nous vraiment confiance? À notre cœur qui est si limité, à notre corps humain, ou à un Dieu extraordinairement bon et puissant qui est capable d'intervenir autant par la mer Rouge que dans des épisodes de soif et de disette? Vous savez ce que les disciples ont souvent demandé à Jésus. Augmente-nous la foi. Augmente-moi la foi, Seigneur Jésus, de croire dans ta bonté, même lorsque mon cœur est dans une circonstance où est-ce qu'il aurait tendance à ne pas y croire en ta bonté, de croire dans ta puissance, de dire, Seigneur, je suis dans une situation que je ne contrôle pas, qui m'énerve, qui me stimule, qui me fait paniquer. Seigneur, révèle-toi à moi. Je demande que ta puissance intervienne dans telle situation. Viens vers moi et réponds à mon épisode de peur, d'insécurité. Viens vers moi, révèle-toi à moi. Fais non seulement révéler au cœur, mais interviens là où j'en ai besoin. J'ai besoin davantage de croire dans ta puissance, de croire dans ta bonté et de me dire au plus profond de moi-même que même si je ne suis pas sur la coche avec toi, tu es un Dieu de grâce. Voyez-vous comment l'Exode nous fait mieux voir, mieux comprendre ce qu'est l'Évangile? Dans l'Ancien Testament, on voit une manifestation très claire du message de grâce que Dieu a pour nous, qu'il veut nous réconcilier avec lui par la mort et la résurrection de son Fils, le pain de vie qui veut se manifester à nos cœurs, non seulement dans une vie d'abondance, mais une abondance qui est parfois stimulée par l'épreuve. Dieu utilise l'épreuve pour nous faire grandir, pour révéler qui on est et révéler qui il est, lui. Même Jésus-Christ, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a passé sur la terre de plus digne et parfait que Jésus-Christ? Bien sûr que non, il est Dieu fait homme. Même Jésus-Christ a appris l'obéissance de quelle manière? Par la souffrance, nous dit la lettre aux Hébreux. Jésus-Christ lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. Et nous, on faudrait passer à côté de cette voie-là, faudrait passer à côté de la traque. Dieu va se servir de la même situation pour que le message de la croix puisse être incarné pour nous. Que les gens voient que ce n'est pas nous qui parlons. C'est un Dieu qui se révèle par le moyen de l'épreuve. C'est une perspective nouvelle que Dieu veut donner à notre regard sur les choses. Voir lui comme le Dieu puissant qui veut absolument nous amener là où est-ce qu'on en a tellement besoin. Mieux le connaître. Donne un défi cette semaine. Vous voyez une épreuve dans votre vie, quelque chose qui ne fait vraiment pas votre affaire. Je vous lance le défi de vous mettre à genoux et d'implorer la bonté de Dieu, sa puissance. Peut-être pour composer avec l'épreuve, peut-être tout simplement pour la voir disparaître. C'est à lui qu'appartient la décision. Mais je vous lance le défi de vous mettre tout simplement à genoux devant une situation incontrôlable et de changer votre plainte et un murmure en un geste d'adoration envers celui qui peut vraiment intervenir pour nous là où nous en avons profondément besoin. On va se courber dans un moment de prière. Seigneur éternel, on vient de voir dans les Écritures qu'à travers ton peuple, que tu as fait passer à travers un miracle absolument extraordinaire. En le faisant passer par cette mer rouge où tu l'as libéré, tu lui as montré qui tu étais. Mais tu ne t'es pas contenté de cela. Tu veux l'amener plus près de toi encore. Tu veux te révéler d'une manière comme plus intime à lui, plus profonde. Tu veux l'amener à te voir non seulement dans l'abondance, mais dans l'épreuve, là où ça ne fait pas souvent notre affaire. Seigneur, on veut voir dans toi l'être absolument extraordinaire et divin de grâce que tu es pour intervenir dans chacune des situations de nos vies où est-ce que nous sommes mis à l'épreuve, où est-ce qu'on voit notre cœur qui est tellement mauvais, tortueux, méchant, capable du pire. Mais heureusement pour nous, ce n'est pas comme ça que tu te révèles à nous. Tu te révèles à nous en nous faisant grâce même si on ne le mérite pas. Et tu interviens de manière miraculeuse, comme on vient de voir pour Israël. Comme on vient de voir à la croix, où tu as pris sur toi toutes nos fautes, tout notre poids. C'est toi, Seigneur, qui as porté l'épreuve de la condamnation pour que nous puissions être pardonnés par toi. Fais-nous voir, Seigneur, ta bonté. Fais-nous voir ta puissance. Augmente notre foi en toi afin que notre épreuve ne soit pas un sujet de lamentation, mais un sujet d'adoration. Un sujet de dépendance envers toi et de te dire qu'en toi et par toi, nous avons le moyen de révéler qui nous sommes, là où nous avons besoin d'être transformés et ce que tu peux faire pour nous pour intervenir là où nous en avons le plus besoin. Tu veux te faire connaître à nous de manière intime et profonde et il n'y a pas autre chose que l'épreuve pour nous amener vers toi et se mettre à genoux devant toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, répéter ce dont le peuple d'Israël a été l'acteur. Même si dans nos vies, nous sommes toujours pris avec ce genre de plaintes et de murmures, apprends-nous à grandir vers ta bonté et voir l'épreuve non pas comme un bâton dans les roues, mais un tremplin qui nous permet de mieux te connaître, de mieux expérimenter ta grâce infinie pour nous. Merci, Seigneur, de ce que tu as tout accompli à la croix et que ton message pour nous en est un tout d'abord de grâce, de réconciliation, de paix. Merci pour qui tu es. Merci pour l'intervention que tu as eue envers ton peuple et merci pour ce que tu vas faire avec nous dans nos épreuves. Augmente notre foi en ta bonté, en ta puissance, en ton intervention, là où nous en avons vraiment besoin. Pour mieux te connaître, mieux te ressembler. Au nom de Jésus-Christ. Amen.